Beauté, une émission de Christiane Hervaux sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Alliance Plus, bienvenue pour notre émission. Aujourd'hui je reçois Jean-Paul Sauzède.
Bonjour.
Bonjour Jean-Paul. Alors, ancien pasteur, thérapeute, formateur, superviseur, créateur de l'école du couple qui se trouve à Nîmes et prédicateur laïque pour les services funèbres pour l'Église protestante unie de Nîmes. Tout ça.
Tout ça, ben non,
tout
ça,
ça
fait beaucoup.
Voilà. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la dernière chose que j'ai nommée, c'est-à-dire prédicateur laïque pour les services funèbres pour l'Église protestante unie de Nîmes. Et donc, nous allons parler du deuil, de la mort, de ce
et des
qui
vivants,
se passe
et de l'accompagnement
dans un service
vivants.
Funèbre. Voilà. Voilà, donc les choses de la vie,
complètement.
Finalement.
Oui.
Voilà. Alors Jean-Paul, ma première question, c'est, vous faites partie de cette équipe de services funèbres, donc il y a les pasteurs, bien sûr, nos trois pasteurs, et même les pasteurs aumôniers de temps en temps, mais il y a aussi 5 personnes, qui font partie de cette équipe, et vous les avez rejoints. Qu'est-ce qui vous a incité à en faire partie ?
Eh bien, assez étonnamment, ça faisait déjà 2-3 ans que j'avais envie de faire ça, mais j'en avais pas la disponibilité. Et quelque chose a poussé. Et c'est quoi ? Je crois que c'est un endroit de notre existence qui me touche, sans doute parce que je vieillis moi-même, qui me touche et que je trouve important de célébrer. Peut-être le mot paraît un peu surprenant, mais je crois que la mort doit être honorée, le mort doit être honoré. Ce temps-là de vie doit être célébré au sens lui donner du sens et peut-être aussi prendre le temps de sentir, de vivre cet événement assez radical de notre existence. Et je trouve que nous sommes souvent démunis en tant qu'humains pour accompagner la mort, alors que rappelons-le, c'est d'abord c'est un événement écologique, de base, naturel, et en même temps tout le temps révoltant, ou tous les cas surprenant et qui nous bouscule. Quand il survient, que ce soit pour notre propre mort et encore plus pour la mort des autres. La nôtre, on ne la verra pas trop, mais celle des autres, on s'en aperçoit. Et puis, si je regarde aussi, je me dis, mais c'est intéressant comment, en termes d'archéologie, en termes d'histoire, mais, même si on va au musée de la Romanité à Nîmes, les stèles, c'est des traces du passé et célébrer les morts, c'est quelque chose qui est profondément un signe de notre humanité. Nous sommes le seul mammifère, je crois, à pouvoir honorer et ritualiser la mort et les morts. Et j'ai trouvé important dans notre société où on a tendance à le banaliser, à le mettre de côté, à ne pas en parler, à employer plein de mots déguisés pour dire que la personne est partie, qu'elle nous a quittés, qu'elle s'est éloignée, qu'elle est montée au ciel, que je ne sais pas quoi encore, qu'elle est passée de l'autre côté. Comme si on avait de la peine à dire la mort. Alors, je trouve que c'est un événement existentiel qui nous fonde, qui nous habite, qui parfois nous hante aussi, et que ça me paraît important de pouvoir accompagner cet événement et ces personnes qui le vivent, le subissent.
Très bien, merci beaucoup pour cette première approche personnelle. Donc. Et donc, pour vous, le service funèbre, le titre service funèbre est un peu...
Ça fait
peut-être
un peu
vieillot pour certains,
oui,
mais
ce n'est
pas forcément mieux qu'enterrement.
Non.
Donc, vous choisissez le mot qui vous convient, Jean-Paul Sauzède. Qu'est-ce que c'est pour vous, en fait, ce service funèbre? Quels sont ses buts? Vous venez de nous en dire quelques-uns, mais
ouais,
peut-être
c'est ça pour moi, c'est,
à l'intérieur du service.
C'est du rituel, et au sens très noble pour moi du terme rituel, parce que je crois que dans la vie, nous avons besoin de rituels. Il y a des rituels de naissance, il y a des rituels de passage à l'âge adulte, il y a des rituels du couple. Et les rituels de changement professionnel, de changement de vie. Et je trouve que c'est important de marquer ces événements-là et de leur donner du sens, de pouvoir s'y arrêter. Et moi, ce qui m'intéresse dans cet accompagnement des familles et de cet instant, enfin, de ce passage de la mort, c'est de pouvoir accompagner les familles dans leur deuil, pouvoir mettre du sens, pouvoir partager leurs réflexions, leurs tristesses, leurs émotions, mettre de l'humanité dans un événement qui nous semble parfois tellement violent qu'on a tendance à l'effacer, à l'anonymiser ou à le neutraliser. Voilà, et ça me touche comment, même les pompes funèbres, hein, elles étaient dans ma jeunesse, dans lesquelles elles étaient très noires, aujourd'hui elles sont très grises. Beaucoup de gens ont peu de mots, de temps à passer autour de la mort, comme s'il fallait évacuer cet événement qui pourtant, oui, je l'aurais dit, fonde notre humanité aussi, comme la vie, fait partie de la vie.
Mm-hmm. Alors est-ce que vous entrez en relation? Comment est-ce que vous procédez dans ce...
Ah oui, alors moi ce que j'aime bien, comment je procède, la première chose que je trouve complètement séduisante et touchante, c'est de prendre contact avec les familles. Et je trouve que c'est un moment tout à fait privilégié parce que les familles sont disposées à être visitées, à être écoutées. Et elles sont disposées à pouvoir raconter leurs histoires, l'histoire du mort, mais l'histoire aussi des autres autour du mort, des liens de parenté, des liens de filiation, des liens parfois d'inimitié, des conflits qui ont eu lieu dans la famille. Et voilà, c'est mon côté thérapeute, je pense, qui ressort à cet instant-là. J'ai une curiosité, j'ai un attachement, une sensibilité à pouvoir être présent autour de ces histoires de famille qui ressortent au moment du décès d'un proche. Et je trouve que c'est des événements complètement exceptionnels. Les gens se disent des choses et se retrouvent. Parfois, ils ne se sont pas vus depuis des années. Frères et sœurs, cousins, oncles et tantes, amis, voisins se retrouvent là. Et c'est très touchant comment d'ailleurs les gens s'embrassent, se retrouvent au moment d'un enterrement. C'est comme autour d'un mariage, on pourrait dire. Et de façon très surprenante, tout le monde s'embrasse, tout le monde s'attache les uns aux autres, raconte l'histoire du défunt. Et pouvoir visiter les familles, ça c'est ce que je fais. Donc, pour répondre à votre question autour de comment je procède, un premier étape pour moi, c'est vraiment d'aller visiter les familles, de les entendre, de les accompagner dans ce que cette disparition-là leur fait vivre, en termes affectifs, mais aussi en termes de sens, parce que ça nous renvoie à c'est quoi la vie, c'est quoi la mort, quel sens ça a, est-ce qu'elle a un sens seulement d'ailleurs. Peut-être que c'est une absurdité de notre existence.
Alors après, dans ces échanges donc, vous rencontrez les personnes peut-être chez elles ou dans un bureau.
Souvent chez elles, oui.
Chez elles.
Oui, je vais les visiter à domicile, j'aime bien.
Après ce temps d'échange, vous préparez le service funèbre. Comment est-ce que vous le préparez en lien avec...
Oui. Avec la situation de la personne, de ce qu'elle a vécu, en lien avec ce que vit la famille, la manière dont elle... appréhende cet événement, ce passage existentiel, ce passage de vie, en lien aussi avec l'année liturgique, parce que je trouve que ce n'est pas pareil de préparer un service funèbre autour de Noël, moment où tout le monde se réjouit, autour de Pâques, avec la mort du Christ, ou en pleine vacances, alors que les gens sont partis en vacances. Il y a tous ces décalages-là, toutes ces phases-là de l'existence, j'essaye de les prendre en compte pour que le service parle aux gens, que ça se soit adapté, qu'ils ressentent combien ma présence, et moi je ne suis là qu'au nom de mon Église et pour témoigner de l'Évangile, et d'une actualité qui va les toucher, les rejoindre dans ce qu'ils vivent dans leur actualité. C'est ça qui me préoccupe.
Ils parlent facilement
Alors oui.
Vous avez des questions... J'allais pas dire type, mais enfin des questions qui reviennent assez facilement.
Pas tellement, ça dépend beaucoup de ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est que, ouais, ça, je trouve ça très touchant, c'est vraiment une belle expérience. Hein. C'est comment au moment de l'annonce d'un décès, les gens ouvrent m'accueillent chez eux et qu'on prend du temps pour parler. Et on parle aussi bien des gens qui sont là, vivants, et des difficultés qu'ils ont. Des liens qu'ils ont eus avec la personne défunte. Parfois, c'est toute l'histoire de la personne défunte. Parfois, c'est les histoires de famille qui ressortent et qui peut-être se règlent à ce moment-là, parce qu'il y a des choses qui se disent, qui ne s'étaient pas dites jusque-là. Et puis après, c'est tout un travail de regarder qu'est-ce qui va faire sens pour cette famille, en termes de liturgie, en termes de lecture de l'Évangile, en termes de croyances autour de la mort, de l'après-mort. Tout ça se peut se parler à cette occasion-là. Donc, ça fait beaucoup de sujets, finalement.
Oui.
Mais les personnes qui vont nourrir en même temps le moment de culte et de prière.
Et les personnes qui demandent, quelquefois elles demandent, c'est les enfants pour leurs parents par exemple, qui étaient protestants et qui veulent un service protestant, mais qui n'ont plus de contact, disons, ni avec une église, ni peut-être de contact personnel avec Dieu, ni quoi que ce soit. Comment est-ce que... Parce que vous parlez, de, par exemple, d'ouvrir la Bible ou de lire des textes, mais est-ce que les personnes sont favorables, rentrent facilement là-dedans? Ou bien c'est vous qui choisissez après un texte biblique qui vous semble le plus proche de ce qu'elles vous ont dit, en Alors, quelque sorte?
Oui, tout à fait. J'essaye de trouver un texte qui soit proche de ce qu'elles m'ont dit. Parfois, il n'y en a pas. Et c'est juste ça sera juste. Pourquoi juste? C'est un psaume. C'est un ou deux versets bibliques qui me semblent ajustés. Mais effectivement, aujourd'hui, j'ai fait essentiellement des services de gens qui sont, je dirais, détachés de l'Église, avec des familles qui sont encore plus éloignées de l'Église. Certains sont francs-maçons, certains se disent athées, certains sont dans du développement personnel, d'autres sont en tendance plutôt bouddhiste. Qu'importe, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir rassembler des gens autour du défunt, de pouvoir partager ensemble le questionnement que nous pose la mort, la vie et la mort, et du sens que ça, qu'est-ce que ça vient faire là dans notre existence, et puis pour moi d'annoncer que la mort n'est pas la fin de toute chose. Et après j'essaye de trouver les termes, les textes qui sont les plus parlants pour être reçus par les personnes qui sont là, et par ces familles. Mon intention, c'est pas de faire une évangélisation, c'est pas de faire du prosélytisme, c'est pas de convaincre, c'est de consoler, c'est d'accompagner et de d'ouvrir une fenêtre à un endroit où de la vie où tout semble se fermer parce que tout à coup la mort a surgi.
C'est ça, c'est un peu la question que j'allais vous poser. Donc, quels sont les buts que, en fait, les buts importants, quoi, la consolation.
Oui, je crois que c'est ça, c'est être avec.
Être avec.
Je crois qu'au fond, assurer un service funèbre, c'est pas faire un culte en soi, c'est d'abord être avec la famille, parler d'amour et le vivre au sens d'aller accueillir de la souffrance, le chagrin, d'aller rejoindre les gens qui sont là, et puis de dire ben, la mort, de ma croyance à moi, en tant que chrétien et protestant, la mort n'est pas la fin de toute chose.
Alors nous allons peut-être parler de cela, soit dans cette émission, soit dans une deuxième, parce que le sujet est long et passionnant.
Il est vaste.
Et donc, nous allons avoir beaucoup de travail. Je vous ai un peu interrompu, excusez-moi Jean-Paul Sauzède. Je rappelle donc que vous êtes prédicateur laïque pour les services funèbres pour l'Église protestante unie de Nîmes, et que nous parlons donc du deuil, de la mort, et de la façon dont vous rentrez en contact avec les personnes, les familles notamment. Et donc, ça me fait penser à une chanson que vous m'avez dit beaucoup aimée, de Clara Isée.
C'est ça.
Qui s'appelle Lettre à M.
Oui, qui est la lettre à sa mère, parce que sa mère s'est noyée en voulant sauver un enfant. Et ça a été donc une mort brutale. Et donc, elle parle de comment cette disparition-là la hante, en quelque sorte. Et elle y pense tous les jours.
Alors nous allons écouter cette très belle chanson et puis nous revenons juste après ensemble pour la suite de cette émission.
Aujourd'hui tu aurais une année de plus et moi peut-être je serais tout aussi perdue, mais je me réjouirais de ta venue. Aujourd'hui on aurait fêté le printemps qui arrive le jour de tes 56 ans et on aurait bien ri pourtant. Aujourd'hui j'ai pensé, mais va-t-il arriver ce temps espéré où tu cesseras de me manquer, où je ne voudrais plus t'en lasser. Je pense à toi tous les jours de l'année, je pense à toi, as-tu le cœur léger? Je pense à toi tous les jours de l'année, je pense à toi, as-tu le cœur léger? Aujourd'hui tu aurais quelques cheveux blancs et moi peut-être le visage moins enfant. On rirait de ce qui change avec le temps. Aujourd'hui on se dirait nos éblouissements. Tu offrirais ton visage au vent. Oh les cœurs, notre amour est grand. Aujourd'hui j'ai pensé, mais va-t-il arriver ce temps espéré où tu cesseras de me manquer, où je ne voudrais plus t'en lasser. Je pense à toi tous les jours de l'année. Je pense à toi, as-tu le cœur léger? Je pense à toi tous les jours de l'année. Je pense à toi, as-tu le cœur léger? Je pense à toi, as-tu le cœur léger? Je pense à toi tous les jours de l'année. Je pense à toi, as-tu le cœur léger?
Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus 103.2. Vous nous écoutez sur le DAB+, ou peut-être en podcast sur radioallianceplus.fr. Et nous sommes en ce moment avec Jean-Paul Sauzède. Et nous parlons du deuil, de la mort, et de ce qui s'y passe, et de ce qui se passe dans ce service funèbre que vous prenez en charge. La question qui me vient maintenant, c'est par rapport à ce temps de deuil que vivent les familles. Est-ce que vous le considérez, je fais le lien un peu avec votre métier de thérapeute aussi, où on parle souvent de travail du deuil,
oui.
Et puis quelquefois on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ni si ça veut dire quelque chose d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus?
Oui, c'était Madame Kubler-Ross, qui est un médecin, qui avait travaillé sur les NDE, c'est les Near Death Experience, c'est-à-dire les gens qui sont dans des expériences de coma avancé, dans lesquelles ils ont cette vision d'un grand couloir blanc, de quelque chose d'assez lumineux, de personnages qu'ils peuvent rencontrer, enfin bref. Elle a travaillé sur cette thématique-là et en accompagnant les familles, surtout autour de ces expériences de coma prolongé, elle a décodé ou elle a repéré un certain nombre d'étapes dont elle a déclaré que c'était ça le processus de deuil. Donc c'est intéressant parce que ces étapes que je vais énoncer, si vous voulez bien, ces étapes, elles fonctionnent aussi bien pour la perte d'un être proche que, je dirais, pour la perte de ses clés. Que pour un changement professionnel ou une rupture conjugale, tant qu'il y a un changement, quelque chose qui n'est pas choisi, qui n'a pas été décidé, donc qui n'a pas été préconstruit ou en tout cas préparé, et qui est donc subi, ce qui est le cas souvent pour la mort d'un proche. Et alors elle dit qu'il y a une première phase qui est une phase de négation, c'est-à-dire qu'au fond on ne veut pas voir, on ne veut pas entendre, je n'y crois pas, voilà. Non, c'est pas possible. Pas maintenant, pas lui, pas elle, pas dans ces conditions-là. Donc il y a quelque chose où notre première réaction, c'est dire non, c'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai. Et puis il y a une deuxième phase qui est une phase de négociation, où elle dit parfois de marchandage, dans laquelle on se dit, pas lui, un autre, oui, ça aurait été possible, ou un autre jour, ça aurait été peut-être plus acceptable. Dans d'autres conditions, ça aurait été supportable. Ou si je perds bêtement mes clés, je me dis, non, pas mes clés, c'est trop compliqué à changer les clés. J'aurais bien voulu préférer ma carte bleue, ça aurait été plus simple. Enfin bref, je me fais un film, une sorte de cinéma intérieur dans lequel je continue à ne pas accepter le réel de cet acte violent, non subi, qui est le deuil, qui est la mort, qui est la séparation, qui est la rupture. C'est à peu près les mêmes processus que l'on retrouve. Et après, le déni, c'est une phase de négociation avec le réel. Et puis après vient une phase de colère, où l'acceptation se fait progressivement un peu plus, et je peux être en colère contre moi-même, d'avoir perdu mes clés. Je peux être en colère contre les médecins qui n'ont pas su sauver ma mère, pourtant de 95 ans. Franchement, ils auraient pu en faire un peu plus. Et parfois, on le sait, hein, qu'il y a de plus en plus de procès qui sont intentés à des médecins, des chirurgiens, qui pourtant ont certainement fait le meilleur d'eux-mêmes et développé toutes leurs compétences. Il y a une sorte de rage contre Dieu. Pourquoi il me fait ça? Pourquoi il me fait subir cette injustice, ce départ? Même pour ma vieille mère ou mon vieux père, j'échappe difficilement à cet instant de colère. Et puis il y a une quatrième phase qui est une phase où je continue un peu plus à accepter cette rupture, ce deuil non subi, donc non choisi, et qui est parfois insupportable, et dans lequel je peux traverser une phase de dépression. C'est-à-dire que la réalité me rejoint au point même qu'elle peut m'envahir, elle me rend triste, elle me rend découragé, elle ne me donne plus envie de vivre, elle peut me donner plus envie de vivre. En tout cas, ce n'est pas intéressant. Voilà, la vie a perdu son goût. La vie a perdu son intérêt, plus rien n'a de sens. Donc il y a une phase de dépression et puis ensuite il va suivre une phase d'acceptation. Tout ça paraît un peu facile à raconter. Ce qui est intéressant, c'est que c'est effectivement des phases d'un ce qu'on appellera un processus de deuil, ou plutôt d'acceptation d'un deuil, d'acceptation d'une séparation, d'acceptation d'une rupture. Et je le redis, c'est ce processus-là, de mon point de vue, en tout cas, il peut être repérable lors d'un décès, mais aussi lors d'une rupture, lors d'un changement, lors d'une perte, et que ce soit la perte de son chien, de son enfant, de ses clés, même si ce n'est pas du tout comparable, mais on s'aperçoit que c'est les mêmes choses qui se passent dans des temps plus ou moins longs. Et ce n'est pas parce qu'à un moment, je suis dans l'acceptation que j'ai perdu de ma perte, que je ne vais pas revenir à un moment à me dire « ben non, ce n'est pas possible », ou à vouloir à nouveau négocier, marchander pour que « ah ben non, si ça n'avait pas été mon chien que je perdais, mais j'aurais préféré perdre mes clés, c'était moins grave ». Enfin bref, nous nous faisons chacun nos films, parce que la mort est tellement inconnue et pourtant tellement présente, puisque nous y passons tous, parce que voilà, nos parents, nos grands-parents, ils ont parfois déjà subi cette fin inexorable. Et quand bien même ça nous paraît faire partie de notre quotidien, ça reste, il y a un côté de la mort qui est insupportable. Et quand bien même je peux dire, bah oui, c'est évident, ça fait partie de notre vie, c'est naturel, c'est écologique même de mourir, ça n'empêche que quand c'est la mort de nos proches, de quelque chose à quoi nous sommes chers, perdre, rompre, voir l'autre mourir, ça nous blesse, à moins qu'on soit donc complètement dans une forme de neutralité ou d'insensibilité. Et du coup, va se développer, se mettre en place ce processus que Madame Kubler-Ross décrivait de façon assez pertinente, qu'on appelle un processus de deuil. Voilà.
Donc dans ce travail-là, qui commence un peu avec la personne avec laquelle on est en relation, donc le prédicateur ou la prédicatrice laïque ou le pasteur, la pasteur, on en est peut-être au tout début, où ça dépend des personnes, dans quelle phase elles sont. Mais vous, et j'en terminerai par cela pour cette émission, comment vous vous sentez dans ces moments-là et dans ce service? Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Et si oui, quoi?
Moi, je vais vous dire, j'adore. Ça me paraît un peu... Quand je rentre d'un service funèbre comme ça, je dis à ma femme, oh, j'aime bien ce que je fais. J'aime bien parce que ça a du sens, parce que je touche... Voilà, je rencontre des humains que je n'aurais pas rencontrés autrement, à un moment où on est dans une rencontre de cœur à cœur, où on est obligé de parler vrai, parce que la mort nous confronte à du vrai, à du réel, à de l'existentiel, et où j'essaye de traduire avec mes mots ma foi et mon espérance pour des personnes qui n'ont pas nécessairement les mêmes langages, pas nécessairement les mêmes codes, pas nécessairement le milieu culturel. Et c'est un vrai travail de traduction et d'interprétation à chaque fois. Et ça, j'aime ça aussi. Voilà, puis je repensais tout à l'heure, en parlant du processus de deuil, je repensais à ma tante, parce qu'elle est décédée depuis très longtemps, mais qu'importe. Je trouve que il y a des liens avec ça, parce que lorsque ma grand-mère est morte, ma tante était célibataire, et elle a fait de la chambre de ma grand-mère un mausolée. C'est-à-dire qu'on n'avait plus le droit d'entrer dedans. Les meubles étaient restés intacts jusqu'à la mort de ma tante. Donc elle est restée dans une phase de déni, en quelque sorte. Elle a continué à faire comme si sa mère était toujours là, comme si ma grand-mère était toujours vivante, au point qu'il ne fallait pas toucher la chambre, il ne fallait pas toucher les meubles. On ne pouvait même pas s'asseoir en voiture à la place où sa mère s'asseyait. Donc c'était, on peut dire que c'était pathologique. Alors on peut dire qu'elle n'avait pas fait son processus de deuil, j'aime pas trop cette expression. En tout cas, elle était dans une acceptation tellement violente de ce décès qu'elle n'était pas en mesure de le faire. Et sa vie est restée, je dirais, coincée, figée à cet endroit-là. Et ça, c'était, C'était désolant et touchant en même temps parce que ça dit aussi l'attachement. Mais je crois que beaucoup de parents qui perdent des enfants jeunes, parce que je trouve que c'est des morts les plus violentes à traverser, sont dans cet endroit-là aussi, à ne pas accepter, à ne pas comprendre, et du coup à rester avec des images, avec des objets, avec des espaces dans la maison parfois, qui restent consacrés à l'enfant disparu, ou parfois à donner le prénom du même enfant à l'enfant suivant, ce qui est parfois très lourd à porter pour cet enfant de remplacement, on appelle ça un enfant de remplacement. Voilà, et nous n'échappons pas à cette phase, en tous les cas, de déni, parce que la mort reste quelque chose d'à la fois tellement évident et tellement surprenant et souvent violent. Mmh. Et je trouve que c'est important d'être là en tant que témoin, que chrétien, pour moi en tout cas, parce que c'est une manière de dire que l'amour est là, je dirais pas plus fort que la mort, mais en tout cas l'amour est une manière de traverser la mort. Mmh.
Donc vous êtes bien à votre place et vous en êtes heureux et nous l'entendons bien, Jean-Paul Sauzède. Merci pour ce témoignage en même temps parce que c'est important. Et donc je fais appel, peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie d'en savoir plus sur les prédicateurs, prédicatrices laïques. Ben, vous pouvez venir nous rencontrer ou rencontrer les pasteurs. Oui. Et peut-être que vous ferez aussi ce beau chemin sur lequel je suis très en accord avec vous, Jean-Paul Sauzède. Et pour l'instant, eh bien, nous allons nous quitter pour cette émission parce que nous avons envie d'en parler encore. Voilà. Donc, dans 15 jours, nous reprendrons le sujet et nous nous retrouverons, Jean-Paul Sauzède et moi-même, dans ce studio de Radio Alliance Plus. À bientôt, chers amis, et puis bonne semaine à vous.
Merci, à bientôt.